Le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Wilder Harrier, qui est en fait des produits alimentaires innovants pour les chiens. C'est hypoallergénique. C'est une compagnie d'ici, évidemment. On fait souvent et majoritairement affaire avec des compagnies d'ici au studio SF. Ils font en fait de la nourriture pour chiens éco-responsable à base de protéines alternatives. Donc, c'est souvent des gâteries à base de grillons, à base de poissons durables, à base d'insectes. C'est des gâteries vegan, en plus, il y en a à base d'algues, de Gaspésie et de pulpe, de jus de récupérer. Écoute, des chiens qui mangent mieux que moi au cégep, ça se peut-tu? C'est génial! Alors, c'est une nouveauté, c'est de la nourriture extraordinaire pour vos chiens, vos petits animaux de compagnie que vous aimez tant. Alors, il y a un code promo, les amis, c'est pour ça que je vous en parle. J20, comme G20, mais J-A-Y, 20. Évidemment, il ne faut pas se tromper, parce que vraiment, vous allez vous ramasser ailleurs. Alors, le site web, c'est monchiensauvelemonde.ca. Vous entrez le code promo J-A-Y-2-0 pour 20% de rabais sur toute la boutique en ligne. Si t'achètes tout, tu rentres ça, 20%. Qu'est-ce qui est content? Ton petit chien. Merci, Wilder Harrier.
Une production du Studio SF.
Salutations, groupe. Encore une fois, bienvenue à J'ai du temps de discute. J'espère que vous allez bien. Merci énormément d'avoir cliqué sur cet épisode du podcast. Mon invité aujourd'hui est une femme vraiment, vraiment spéciale. Ça a été un des épisodes les plus spéciaux, sans rien enlever aux autres, évidemment, mais ça, j'ai eu des frissons du début à la fin. Il s'est passé quelque chose, j'ai l'impression, dans le studio SF. Elle s'appelle Michelle Odette. C'est une femme autochtone qui travaille, entre autres, à l'Université Laval. Elle est conseillère à la réconciliation et à l'éducation autochtone là-bas. Elle a aussi fait partie de l'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées, donc la commission qui a eu lieu il y a quelques années. Une militante depuis sa tendre enfance, mais d'une douceur. J'en perds mes mots. Ça a été une rencontre vraiment, vraiment puissante, très lumineuse, remplie d'humanité, de vulnérabilité, d'ouverture à l'autre, de force, de pardon. Merci vraiment d'avoir cliqué sur ce podcast, puis j'espère vraiment que vous ressentirez ce que moi j'ai ressenti pendant cette rencontre. Bref, je vous en dis pas plus. Bonne écoute. Merci vraiment d'avoir cliqué. Je vous laisse avec la conversation que j'ai eue avec la merveilleuse Michelle Odette.
Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là.
Ouais, c'est Jet Stop qui discute. Ouais, c'est Jet Stop qui discute. Ouais, c'est Jet Stop qui discute.
Michelle Odette.
Hey.
Enchantée, tout d'abord.
Ben, quoi?
Et merci tellement d'avoir accepté mon invitation. Je suis désolé que l'invitation soit arrivée dans un moment tragique. Évidemment, le décès de Joyce Echaquan. Ouais. Mais je te remercierai jamais assez d'être ici aujourd'hui.
Wow.
C'est vraiment un plaisir de te rencontrer. Tout d'abord, j'aimerais que... Bon, pour les gens qui te connaissent pas, j'aimerais que tu expliques ton titre à l'Université Laval et ce que tu fais. Et après ça, bon, on parlera évidemment de tout ce que tu es et ce que tu incarnes.
Ouais. Le plus beau titre, on va commencer avec celui-là, c'est d'avoir donné la vie à 5 étoiles. Hein, dans une légende, on nous dit que nous sommes des étoiles puis on choisit nos parents. Alors, j'ai été choisie par 5 enfants, 2 jeunes adultes et des jeunes ados. Alors, ça fait 3 garçons, 2 filles. Et je suis Koukoum, grand-mère de 2 petites filles.
Koukoum.
Ouais, ouais, ouais.
Quel beau titre.
En Innu, ouais. Koukoum. Alors, pour moi, ça, là, c'est le cadeau et la réussite de ma vie. Ça, c'est le titre, là. Ensuite de ça, je chausse
des mots. Avant qu'on poursuive, ouais. est-ce que t'as toujours voulu être humain? Est-ce que ça a toujours
jamais
fait?
Jamais.
Non!
Et mes enfants le savent, quand j'étais jeune, garder pour moi, c'était le meilleur moyen de contraception. Fait que non, ça chiale, ça pleure, ça sent pas bon, ça chigne, c'est constamment collé à un mollet. Mais ça, je suis ado, là. Et après ça, à 21 ans, quand j'ai su que j'allais donner vie, là, je me suis dit, mon Dieu, ça vient d'où cet amour-là? je pourrais jamais aimer un autre enfant. Mais j'en ai eu 4 autres, puis l'amour apparaît instantanément.
Et moi, j'ai vu, évidemment, j'ai vu mes parents être parents. Et depuis quelques années, j'ai la chance de les redécouvrir comme grands-parents.
OK.
Mais ma grande sœur a 3 enfants. Ma petite sœur accouche présentement. En ce moment, là, j'ai reçu le message texte ce matin. Elle est rentrée à l'hôpital cette nuit.
Wow.
Elle est en train d'accoucher là. Donc, je pense à elle, puis je l'aime. Mais, et j'ai redécouvert mes parents comme grands-parents. Et ça a été, là, je savais que j'avais des bons parents et je me trouve chanceux à tous les jours. Mais de voir mes parents devenir grands-parents, je t'en parle, j'ai des frissons. Ça a été une espèce de... Ah ben évidemment que notre famille est tissée comme ça. C'est que de l'amour.
C'est ça.
Que de l'amour. En quoi ton rôle de mère et de grand-mère pour toi est différent?
J'ai été maman dans 2 périodes, donc mes plus vieux. Et ensuite, maman, avec les 3 qui sont arrivés, il y a quand même grande différence d'âge, là, entre 27 ans et 13 ans, 12 ans et tout ça. La différence, trop militante, trop impliquée, je suis même pas là dans mes 2 premières grossesses et l'arrivée de Amon et Wapen, même pas présente quand la dent tombe, le premier pas ou les premiers mots, je suis tout le temps en train de militer à quelque part sur la planète. Alors, je suis aujourd'hui, tu sais, je leur dis « Ah, je m'excuse », mais ils sont fiers de ce que je fais.
J'imagine, oui.
Et la deuxième famille, je me suis dit « T'as peu, là, la terre continue à tourner, on est tous et toutes remplaçables, je vais essayer de savourer ». Alors, j'ai été différente. Et là, ma petite fille que je peux voir facilement, parce que l'autre est à Chilliwack, au BC, mettons qu'à chaque semaine, j'aime ça qu'elle vienne à la maison. Puis hier, mes enfants, justement, ados, me disaient « Maman, t'es donc bien belle ». Ils m'ont regardé avec des yeux de « elle est grand-mère ». C'est pour ça que j'aimais ce que tu disais.
Mm-hmm.
Alors, c'est comme ça, je vois que je suis devenue meilleure en vieillissant. Plus ferme ou plus sévère, mais meilleure, plus de patience.
C'est vraiment un rôle qui est magnifique. Je trouve les grands-parents... je trouve il y a quelque chose d'une... j'ai l'impression que c'est un parent qui est toujours de ton bord.
Ça, c'est vrai.
Mais c'est juste une impression. J'ai l'impression que c'est juste un parent qui est moins impliqué émotionnellement. Pas moins impliqué émotionnellement, je sais pas comment le dire, mais ma perception de ça, c'est... On dirait que quand ça vient de la mère ou du père, des fois, c'est comme « Ah, là, lâche-moi, tu sais, de l'enfant. Mm-hmm. » Quand ça vient des grands-parents, il y a quelque chose de plus doux, j'ai l'impression. On dirait qu'on...
C'est vrai, parce que c'est ce que je disais ce matin. J'ai quitté ma petite fille, il était 5 heures. Et dans son oreille, je lui chuchotais, j'ai dit « Tu le sais que je t'aime. » Mais là, je viens de comprendre pourquoi j'aimais de façon inconditionnelle nos coums à moi, nos coums Tiktosh, Linou, puis nos coums Gertrude, la Québécoise. Comment elles étaient pour moi des modèles, mais j'avais pas l'impatience que je pouvais avoir avec ma mère ou mon père. Mais elles ont été capables de m'enseigner des valeurs ou d'être assez fermes aussi.
Oui? Lesquelles? Ouais. C'est quoi les plus grands enseignements?
Les plus grands enseignements de mes deux grands-mères, c'est une, d'explorer puis d'exploiter au maximum mon côté artistique. Alors, j'avais toujours mon petit pad avec mon petit crayon mine et une petite efface. Ça, elle me disait, perds pas ça, t'as un don. L'autre, le plus bel enseignement, c'était... dans une période assez difficile, moi, je vais te protéger, je vais t'amener dans mon environnement. Donc, j'ai fait le tour des communautés Innu, où elle faisait de la traduction là, pour les missionnaires, les curés, et de m'ouvrir sur le monde, d'éveiller mon nomadisme qui était là, mais le fait d'être sédentaire à cause de la loi sur les Indiens, elle m'a amenée. Elle a dit, let's go. Moi, je t'amène voir d'autres personnes, d'autres mondes, et tu vas vivre à te découvrir là-dedans.
J'imagine que ton militantisme vient un peu de là.
Les deux parents... Mon père québécois puis ma mère Innu, c'est des gens qui ont parti des mouvements ou participé à des mouvements.
Pour ceux qui ont jamais entendu parler ou qui connaissent pas la loi sur les Indiens, c'est quoi?
Bon, je vais essayer d'être douce.
On est sur YouTube, hein? T'es pas obligé.
Non. Ça, c'est juste parce que ça l'éveille trop de rage, là. Ça c'est moi, là. Je vais toujours être de même. La loi sur les Indiens, c'est du jour au lendemain, en 1870, des gens ont décidé que les premiers peuples qui étaient là, les grandes nations autochtones présentes depuis des millénaires, on allait les parquer dans des réserves, donc le terme est malheureusement encore réserve, qu'on allait leur enlever leur autonomie, leur identité culturelle et surtout leur façon de vivre, spirituelle, physique, mentale, etc. Leur gouvernance, leur structure, leur langue et ainsi de suite. Donc moi, j'ai 49 ans en vous parlant, là, tout le monde qui écoute, mais légalement, toutes les personnes qui sont inscrites en 2020 encore à la, sous cette loi-là, on est considérées comme 17 ans et moins, donc des mineurs. Je n'ai plus les mêmes droits et responsabilités qu'un citoyen québécois ou canadien à cause de la loi canadienne ou la charte ici au Québec, et ainsi de suite. Donc, cette loi-là va m'obliger à vivre dans une réserve si je veux bénéficier des services de la réserve, donc l'éducation, l'administration de mon conseil de bande, ma santé, mon habitation, mon logement, tu sais. Donc, ils vont gérer ma vie. Et c'est pour ça que les gens pensent que je paye pas d'impôts, mais on charge pas d'impôts à des mineurs. Donc, j'en paye pas quand je suis dans une réserve, mais j'habite à Québec et j'en paye, puis c'est bien correct. Alors, ça va faire que j'ai pas le droit de m'épanouir et si je meurs, même si j'ai payé pendant 25 ans ma maison, puis je veux la léguer à un de mes 5 enfants, s'ils sont inscrits en vertu de la loi et qui habitent dans cette, entre guillemets, réserve, ben je ne peux pas léguer facilement ma maison parce que le notaire n'est pas... reconnue dans une réserve parce que je suis mineure. Donc, jusqu'à récemment, il fallait afficher pendant 60 jours dans mon, dans un lieu public, dans ma communauté. Bon, Michèle Audette est morte, sa maison va être léguée. Donc, vous êtes tous des frères et sœurs parce que vous êtes les mineurs de la reine et du gouvernement fédéral. Si vous contestez, elle ne pourra pas donner sa maison à un de ses enfants. Alors, c'est ce genre de, d'absurdité auquel on fait face à tous les jours, là, encore en 2020.
Et... d'où vient la résistance à modifier cette loi-là ou à l'enlever tout simplement?
Elle est multiple. Beaucoup de gens, le fait qu'on nous a enlevé toute notre façon de vivre et comment on se mobilisait socialement et politiquement et que le lavage de cerveau arrive, qu'on finit par adhérer que c'est la loi sur les Indiens qui reconnaît mon statut d'Indien, donc avec mon numéro de bande, je suis Indien. Alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec un Innu, un Atikamekw, un Gixan ou un Haida, mais pas pantoute. C'est là où le lavage de cerveau puis le colonialisme a fait ses ravages, a fait ce qu'il voulait faire de nous, donc tuer l'Indien à l'intérieur là, de notre âme, là, de nous faire mal, tuer l'enfant à l'intérieur de l'Indien, pardon. Puis avec cette loi-là, ben aujourd'hui, on se retrouve aussi en se disant « Ah, ben j'ai des transferts fédéraux qui arrivent dans ma communauté. Mais si j'ai pas de loi sur les Indiens, qui va me transférer ces montants-là pour l'éducation, l'infrastructure, les projets, les programmes, etc.? » Alors, des gens vont s'accrocher à ça. Puis d'autres, comme bien dans lesquels moi, je vais plus pagayer ou marcher, là, c'est faut se défaire de cette loi-là, mais faut aussi nous assurer en échange des garanties qui vont faire que j'ai enfin 49 ans, mm-hmm. avec des droits et des responsabilités, que j'ai envie de triper pour aujourd'hui et demain, au niveau de ma nation, ma communauté, de développement économique avec mes partenaires québécois et québécoises autour de, je sais pas moi, Sept-Îles, exemple, mm-hmm. ou Kanawagé pour Montréal, ben on n'est pas malheureusement rendu là.
J'écoutais ton entrevue à Tout le monde en parle et tu disais souhaiter qu'on réécrive notre histoire. Qu'est-ce que tu voulais dire par là?
Quand j'étais jeune, j'ai décidé de sortir du ventre de ma mère en plein milieu de nulle part, dans le Labrador.
C'est-tu vrai?
Dans le train, là. Ils ont fait venir l'hélicoptère.
Non! Oui. Dans le train!
Elle, quasiment, elle a tapé, là. Elle s'est retenue. Non. L'hélicoptère est arrivé et, pouf, ils ont trouvé l'hôpital la plus proche au Labrador, à Wabush. Je suis sortie, donc on me ramène dans le train, toute petite, 6 livres, là. Et, hey, madame, allez du côté du train des sauvages. Mon père, lui, Québécois, pouvait faire le choix, mais pas ma mère. Fait que moi, j'ai grandi dans ce train-là jusqu'à l'âge de 11 ans. À chaque année, je prenais le train. C'était chez nous, au Chefferville. Et j'étais haïssable, j'allais de l'autre bord. Mais je comprenais pas que l'histoire faisait qu'on... Cette ségrégation, elle était très, très, très réelle dans mon vivant. Puis quand j'arrivais à l'école primaire, c'est une école de jour faite par les missionnaires... On m'enseigne pas la vie. On m'enseigne pas ce qui se passe sur la planète. On m'enseigne les sauvages, les mauvais, les bons. Puis plus tard, au secondaire, ici, à Longueuil, j'allais à Monseigneur Parent, on parlait encore des sauvages, puis je mangeais les jésuites. Tu sais, on les brûlait, puis on les mangeait. Donc, on m'a appris de mauvaises choses, alors que citronnette Québec, là, c'est un beau mot inou qui dit à nos ancêtres, d'ailleurs, débarquez de vos bateaux. Donc, les inous étaient tripants, étaient accueillants. On va avoir sauvé des gens du scorbut. Ma mère me disait, la tradition orale disait qu'ils puaient de la bouche. On leur a donné de la savoyenne, on les a sauvés, on les a accueillis, on les a nourris. Il n'y avait pas de Canada Goose, là.
Non, c'est ça.
Ni d'iPhone et tout ce que tu veux. On les a
sauvé.
Exactement. Alors qu'aujourd'hui, on est les méchants. Puis ça, ça me brise le cœur. Puis je me dis, c'est pour ça que l'histoire est à refaire. Puis on devrait la faire ensemble.
Justement, parlons-en de l'histoire. Parce que là, tu me la racontes et tu sembles avoir des pans d'histoire de par les histoires qu'on t'a racontées.
Oui.
Toi, c'est quoi ton histoire? C'est quoi l'histoire des Inuits?
Un beau peuple. Les Inuits sont comme plusieurs peuples là, à travers la planète. On est un peuple qui est résilient, qui est accueillant, qui est taquineux, pince sans rire. On est un peuple qui traîne une grande souffrance, mais en même temps qui sait pardonner puis qui a envie de pardonner.
Visiblement.
Oui. Ouais. Il y a des artistes là incroyables, beaucoup à Montréal surtout, qui sont poètes, qui vont slammer, qui vont chanter, qui vont danser, qui vont accueillir par un festival de musique à chaque année, quasiment une trentaine d'années même. Cashton arrive des Inuits, Inunurmu arrive des Inuits. Alors il y a beaucoup de belles choses qui sont pacifiques qui vont arriver de mon peuple. Puis ça pour moi là. C'est comme, yes, tu sais, je suis fière. Mm-hmm. Alors, à travers l'image noire ou pas fine qu'on va véhiculer ou qu'on va recevoir, je dirais qu'on a une force hallucinante et une douceur, là. Mais la meilleure chose, c'est qu'on aime ça rire. Rire avec et de la personne.
Mais justement, d'où vous vient cette force et cette douceur-là? Parce que j'ai rencontré... aussi Jamie Échaquan, la comédienne qui est venue me rencontrer à Occupation Double. Quelle chance de... quelle rencontre remplie de... Le mot qui me revient, c'est de la douceur. Et j'y ai posé la question, et je te la pose à toi aussi, comment... Vous avez toutes les raisons d'être en colère et de hurler. Et malheureusement, jusqu'à encore aujourd'hui.
Ouais.
Mais vous faites le choix... De rester dans la douceur, dans le pardon, dans l'ouverture, dans le souhait du changement, avec je ne sais pas quelle force. Parce que, encore une fois, j'écoutais ton entrevue, à Tout le monde en parle, et quand j'ai su l'histoire de Joyce Échaquan, j'ai jamais regardé la vidéo parce que j'avais peur.
Mm-hmm.
Et dans l'entrevue, à Tout le monde en parle, il montre un extrait et je suis venu les larmes. Ça me fait mal en dedans. Je t'en parle, puis je suis à l'envers. Et c'est pas ma réalité.
Mm-hmm.
Mais j'ai honte. Et fait, d'où vous vient cette force et cette douceur-là?
C'est des chemins qu'on va prendre. Ils viennent pas tout de suite, je vais être sincère avec toi. Là. C'est une guérison qu'on doit entreprendre. C'est d'avoir des gens qui vont nous entourer et nous relever quand on tombe. Alors, c'est de savoir aussi s'entourer. Et on apprend beaucoup par l'observation. Hein. C'est pas une culture où c'est très en avant magistral, puis on écoute et t'sais, c'est t'observes aussi, puis t'essayes, puis tu te fais ramasser ou tu te fais sourire. Et cette guérison-là va se faire parce que j'ai envie de vivre, j'ai plus envie de survivre. Et pour pouvoir vivre, ça veut dire que je me pardonne de certaines ou de beaucoup de choses et je pardonne aussi à l'individu comme je vais pardonner à un système. Ça, c'est plus difficile.
C'est clair.
Pour le pardonner, je me suis dit, ben je vais militer, je vais faire de l'éducation populaire. Si je deviens politicienne, je serai politicienne pédagogue. Si je deviens artiste, j'étudie à Concordia en beaux-arts pour créer plein de militants. Afin de devenir professeur. Là. Alors, tu sais, c'est toujours dans une perspective de comment on peut, dans notre guérison, dans notre chemin, assurer qu'on fait une éducation populaire. Et si je crie tout le temps, je vais faire peur aux gens. Mm-hmm. Et si je prends juste une avenue dans une approche, bien, mon réseau va être très petit. Alors, c'est pour ça que je pense qu'on va se retrouver avec cette approche-là de dire, j'ai le choix de crier, mais il y en a d'autres qui le feront. Moi, ouais. C'est ça. La douceur va peut-être rassembler plus de gens.
Assurément. Assurément. Et... Mais il n'y en demeure pas moins que ça démontre une force qui est gigantesque. Et j'en parlais avec Jamie aussi. Puis ce que j'entends dans ta réponse aussi, c'est que votre existence est politique. Et,
oui.
Et ça, il y a quelque chose d'injuste là-dedans.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'ai pas demandé, même si j'ai choisi ma mère et mon père dans la légende, qu'il y ait une ségrégation dès mon premier jour de vie, là. Mais il faut croire que c'est le choix que j'ai fait. T'sais, si je veux le rendre doux et beau ou vrai, là, c'est ce qui fait que quand des histoires où on va voir et entendre et ramener des choses en soi avec Joyce, c'est aussi des milliers de personnes comme Joyce qu'on va entendre tout le long de notre vie, je tombe, puis je crie, puis je pleure, puis je rage. Et c'est là où l'amour puis l'aide va nous aider. Mais ça fait mal. Puis c'est là où t'entends des fois déjà tabarnouche. Ben, on dit pas tabarnouche, là, mais parce que j'ai une petite boule noire devant moi, là, le micro. Je vais essayer de rester dans la politesse. C'est là où on perd des sens, mais ça dure un moment. Au lieu de durer une vie ou le cacher sous une consommation ou le cacher tentative de suicide. Puis là, tu dis, yes, j'ai le droit d'avoir mal, citronnette, parce que ça fait i. Et après ça, tu vois là, tout l'amour des gens autour, tu dis, crème, ça vaut la peine. Tu sais, je vais continuer. Mmh. Puis je suis pas tout seul, c'est ça l'affaire. Il y a des milliers de gens. Fait que là, des pleurs de joie. Puis mon chum, des fois, mes enfants, c'est correct, maman. Mais je veux pas leur donner trop de pleurs, mais on se l'autorise. Mmh. Puis il faut le faire.
Mais c'est clair. C'est clair. Et c'est tellement important. Puis, et c'est ce qui monte aussi dans le sens... Après ça, je pense que toutes les émotions sont légitimes. Après ouais. ça, c'est de voir comment... C'est la réaction qui vient avec l'émotion, des fois, qui est difficile. Mais encore une fois, j'admire la douceur avec laquelle vous véhiculez ces émotions-là parce que j'ai pas cette gestion-là encore dans ma vie.
Alors.
Et j'aspire à ça, tu sais.
Ouais.
Je sais aussi que t'as fait partie de la commission des femmes autochtones disparues et tuées. Je sais pas si je me suis trompé dans le titre, là. Je sais que c'est un titre qui est tragique et qui a besoin de l'être.
C'est plus ça, oui. C'est plus ça qui est important.
Pour que ce soit entendu, est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que j'en parlais avec ton collègue qui est ici à côté,
Monsieur
Mathieu. J'imagine qu'il devait avoir un côté cérémonial à ce genre de lieu d'écoute, de partage, pour entendre des témoignages d'une dureté inhumaine?
Carrément. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore en processus de guérison. Tu sais, Joyce va ramener ce qu'on va entendre pendant 33 mois, là, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Et pardon, il y a quelqu'un qui m'appelait en même temps que je vous parle. Puis j'ai répondu. Ma fille en question. Qui va dire, « Mom, t'es où? » Et ce processus-là, le 33 mois, là, moi, je suis tombée. Puis je le vis. Là, à chaque fois qu'on va reparler de Joyce, ça ramène là, les milliers de témoignages. Puis pour pouvoir le traverser, moi, ce que je me suis fait, c'est... On est 5 commissaires, on finit 4. Je te dirais, là-dedans, t'as 3 personnes qui ont une formation de juristes, des avocats et des juges. Donc, ils ont dû être mindés à pas prendre l'émotion,
ouais.
mais de la gérer autrement. Alors que moi, j'étais une éponge, là. Alors, j'amenais les gens le soir. On était dans le downtown Eastside, dans le nord de Winnipeg, dans le milieu rock'n'roll difficile, cruel, à Montréal, partout où on est allé, j'amenais les gens de mon équipe. C'est pour eux autres qu'on fait ça. Fait qu'on a là, des responsabilités le restant de nos jours. Alors, je te dirais que je le vois, moi, aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui ont changé, il y a des institutions qui prennent le virage, mais la magie, là, le plus beau cadeau, c'est que, pour une fois dans l'histoire au Canada, là, la vérité des femmes va avoir fait vibrer une planète au complet. Fait que moi, mon petit processus de guérison, là, il est tout mignon à côté de ça. Fait que c'est pour ça que je me dis, c'est ça qu'il faut honorer. On a été un outil pour élever une voix trop bafouée et cachée. C'est gros, là. Pour moi, c'est beau.
C'est clair. C'est clair. Mm. Après ça, ce qui est vraiment important, je pense, c'est que ça se poursuive.
Oui.
C'est ça le souhait, puis c'est ça qui doit être fait. Et malheureusement, encore une fois, on a eu un exemple du grand manque d'éducation, du grand manque de communication, du grand manque de respect humain, basique, qu'on est censé avoir les uns pour les autres.
Ouais.
Donc là, c'est... Qu'est-ce qui doit changer? C'est quoi? Là, c'est une grande question. Là, on dirait juste que je veux garder espoir. Il faut avoir espoir en nous. Il faut avoir espoir en le peuple québécois, le canadien. Mais il y a quand même des changements qui sont censés être concrets, qui doivent être effectués, tu sais.
Tu le fais. Hein? Il y a de façon individuelle et de façon collective, sociale et politique. Et quand un journaliste ou quelqu'un qui a une influence comme toi, là, qui a une magie ou une capacité, tu aurais dû voir les gens au bureau qui ont dit « T'en dis compte où tu vas, là? » L'influence de... Moi, là, ou comme à tout le monde en parle, c'est que vous avez ouvert une partie en vous qui nous permet de faire cette éducation-là. Ça, moi, j'honore ça. Donc, la culpabilité que j'ai entendue tout à l'heure devrait même pas être là. Devrait être juste comme, bon, ben j'ai fait un petit bout important. Il a peut-être l'air petit, mais il est important parce que vous avez de l'influence. Ça, pour moi, là, merci. Ensuite, en termes de société, ben c'est de rappeler à nos élus, hey, vous avez ordonné des enquêtes puis des commissions, reddition de comptes, les rappeler à vous êtes rendu où avec ça. Alors, moi, je me dis, on va continuer à faire des commissions d'enquête, sont importantes, on va continuer à faire de la mobilisation. Mais si les gouvernements ne veulent pas refaire l'histoire dans nos écoles, on va juste être, parce que t'es cool et trippant, d'avoir cet espace-là. Mais si t'es plus là, puis je suis plus là, puis que les prochains et prochaines personnes vont être... Moi, c'est pas ça pantoute. On recommence.
Mais c'est là où... c'est gentil que tu me remercies, mais dans ma tête, ça fait pas de sens, parce que sans tes ancêtres, je suis inexistant. Tu comprends? Dans ma tête, c'est ça la vérité. C'est qui fait en sorte que pour moi, c'est absurde de penser que c'est moi qui dois recevoir le merci alors que je t'offre une opportunité d'éduquer l'histoire de mon peuple et de nos peuples, qui est vraiment une histoire qui est gênante de mon côté à moi. T'sais. C'est ça qui est. C'est que ça brise le cœur. Ça brise le cœur parce que j'ai de la difficulté à comprendre ce qui s'est passé. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre comment la peur de la différence a pu rendre des gens aussi médiocres. Puis encore aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est juste de la peur. Je dis juste, là, mais c'est que ça peut mener à tellement quelque chose de grave et puissant, alors que je trouve qu'on oublie qu'on est tous des êtres humains. Et vous nous avez accueillis. L'histoire que tu me dépeins tantôt, c'est charmant, c'est profondément humain. C'est profondément. Puis je pense que ce que Jamie me racontait aussi beaucoup de l'histoire que vous avez, la spiritualité que vous avez avec la nature, avec l'autre.
Ouais.
Quand tu disais que tu as choisi tes parents, toutes ces croyances-là, ça a une beauté. Vous avez une poésie et un romantisme. Vraiment émouvant, tu sais. Et on est venu briser ça. Pourquoi? J'ai de la difficulté à comprendre. J'ai beaucoup de difficulté à... Fait que c'est moi qui te remercie d'être là aujourd'hui parce que c'est toi qui m'éduques, puis c'est toi qui éduques les gens qui nous écoutent, puis on est en retard et je m'en excuse. Fait que non seulement je te remercie, mais je m'en excuse. Du moins pour ce qui m'appartient de cette éducation-là.
C'est un beau cadeau. Une de nos lois que je vais apprendre pendant la commission d'enquête, puis c'est beau parce que même moi, je suis en apprentissage, hein, parce que quand je disais on nous a pas appris, on nous a caché ou on nous a pas dit d'où on venait, on est en train de se réapproprier nos modes de vie ou nos fondements là, de nos nations. Et une des valeurs était la réciprocité, l'interdépendance et le respect. Et réciprocité, c'est que je te donne, tu me donnes. Donc aujourd'hui, c'est pour ça, moi, que je te dis merci parce que tu m'as donné cette chance-là. Mais je n'avais pas pensé que je pouvais aussi recevoir. Fait que je le prends, puis avec une petite larme, là, un petit mouton ici, mais un petit mouton content. Là. Merci.
Et là, si on poursuit, parce que bon, évidemment, dans tout ton être, tu es militante. Mais là, t'es rendue à l'Université Laval.
Oui, c'est fun.
Donc là, t'es rendue enseignante. C'est ça que
non,
tu fais? C'est quoi? T'es conseillère.
Conseillère, oui, oui, oui. J'ai promis à mon âme, à moi, de finir mon baccalauréat un jour, ou en tout cas d'avoir un diplôme universitaire. Et je pensais pas être employée par une belle université, là. Alors, l'université m'a demandé de travailler avec eux autres pour les accompagner à faire un virage qu'ils avaient déjà pris. Pour faire plus, faire mieux sur les questions qui touchent les Autochtones, les étudiants autochtones, bien sûr, puis aussi les 17 facultés. Donc, ça me permet là, de me promener d'une place à l'autre et c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard. J'étais avec la faculté des infirmiers et infirmières. Ils veulent faire mieux et plus, puis on a eu des beaux témoignages. Alors, c'est ça mon travail, des conseillers, mais c'est aussi de mettre en place là, une belle stratégie, un beau plan d'action qui va s'appeler l'Université de Laval en action avec les premiers peuples qu'on va dédier à Joyce et Chacon. Donc, ça va amener l'institution à s'engager pour les prochaines années à travailler en partenariat avec les premiers peuples et s'assurer que des situations comme on a connues, on puisse dire ces choses du passé. Mais ça, ça va prendre du temps, mais il faut le faire maintenant.
Je trouve qu'il y a un mot là-dedans qui est super important, puis c'est l'engagement. Mm-hmm. Parce que c'est facile de dire
ouais.
ou de souhaiter. Après ça, le mot engagement, il y a quelque chose vraiment de, ouais. dans le mouvement, dans le changement. Et justement, comment vous allez l'effectuer, ce changement-là? Comment vous allez...
Il s'effectue... La façon qu'on veut le préparer et proposer, bien, c'est des Autochtones et l'université là, qui ont réfléchi à les comment et les pourquoi. Alors, dans ce plan-là, c'est de faire en sorte qu'on s'assure à avoir un centre des premiers peuples, donc un espace pour accueillir les étudiants et étudiantes des Premières Nations et Inuits, parce qu'en ce moment, c'est pas évident, mais là, il y a la COVID en plus. Mmh. Donc, de créer cet espace physique-là, entouré d'une expertise qui va répondre aux besoins, ça, c'est fondamental. Ensuite, d'essayer de former... Hey, c'est plus gros que cette île, l'Université Laval. C'est 70 000. Moi, je ne savais pas. C'est gros. C'est plus gros que chez nous. Là. Alors, c'est d'essayer de former à moyen et long terme tout le personnel, les professeurs et tous les étudiants qui vont là, peu importe le programme, sur les questions qui touchent les Autochtones. Parce qu'éventuellement, on sait qu'ils vont être touchés, confrontés ou amenés à travailler avec des questions qui nous touchent. Là. Mm-hmm. Alors ça, c'est des beaux rêves. Puis évidemment, de développer des partenariats plus solides. Hein. On demande beaucoup des choses sur les Autochtones, mais des fois, on n'est même pas assis à la table pour échanger. Puis
c'est
de,
ça.
Ça serait cool. Ça, oublie ça. Alors, c'est d'amener des partenariats officiels avec l'université. Alors, il y a 5 grands axes là, dans lesquels je trippe bien raide.
Ouais?
Ouais. Fait qu'on va annoncer ça le 1er décembre.
Ah, mon Dieu, fait que c'est là, là.
Ah, c'est quasi scoop, là.
Oui!
Ouais.
Extraordinaire. Ouais. Mais là, ça, j'imagine que ça... Ça aide à respirer un peu mieux, j'imagine. Là,
Quand mon amoureux me dit, je sais pas si t'as remarqué, et des gens aussi via le Zoom, là, faut le faire, que j'ai l'air d'avoir des yeux qui brillent à cette heure, d'avoir des épaules plus légères, d'avoir un visage plus calme, ça démontre que mon milieu de travail me fait vivre de belles émotions, alors que l'autre, je vivais l'émotion. Puis je regrette pas du tout, là. Mais c'est pour ça, quand je suis allée à Laval, je leur ai dit à mes patrons, patronnes, je vous donne une petite robe rouge. Moi, là, c'est mon gage. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, puis qu'on rame ensemble, on va honorer la vérité des femmes qui ont partagé à l'enquête. Dans vos programmes, dans vos façons de faire. Alors, ils ont dit oui. Fait que ça m'a comme...
Mais c'est évident. La commission, comment t'as fait pour passer au travers, justement, toi qui es une éponge qui absorbe ça, et avec raison, parce que c'est pas l'histoire de gens inconnus.
Non.
C'est l'histoire de ton peuple, c'est l'histoire de tes sœurs, tes comparses, tes amis. Qu'est-ce qui t'a aidé à être ici devant moi aujourd'hui?
Je me suis entourée de femmes et d'hommes, donc des cocoums spirituels, qui ont vécu ou qui sont encore victimes, mais aujourd'hui des femmes, des modèles là, qui ont dévictimisé tout ça, là, de Québec à Pénélope et de, j'allais dire, BC, Vancouver, dans le temps de avec Bernie. Donc, elles étaient mes grand-mères spirituelles pour m'accompagner. Donc, ce sont les mentors les plus informés de c'est quoi une violence coloniale ou etc. Ensuite, je me suis entourée de santé, je veux dire, plus psychologues et travailleuses sociales et d'une équipe Québec, de gens autour de moi, là, à tous les soirs, fallait qu'ils me fassent rire. Fallait, pour pas que je revienne lourde. Et quand j'arrivais une semaine, à Québec, mes enfants savaient et mon partenaire, ça pouvait me prendre une journée avant de revenir la conjointe, la maman, la tanante, la chialeuse, la cool, la commissaire, mais plus sédentaire pendant 5 jours. Là. Et mais ce sont des amis, une famille, puis une expertise psychosociale et autochtone qui vont m'avoir aidée.
J'aimerais ça que tu me parles de tes deux guides, tes habitudes, tes nokum?
Oui, mes nokum, oui.
J'aimerais ça que comment tu les as rencontrés? Qu'est-ce qu'elles t'ont appris? C'est quoi l'histoire de ces femmes-là?
Quand on fait de la politique, ça, communautaire ou gouvernement, j'imagine, ça doit être la même affaire, on émet hein, des idées, puis des fois, on voit pas le résultat nécessairement. Et trois femmes sont venues me voir, j'étais toute jeune, on avait le droit encore de fumer dans nos bureaux, c'est la rue Sainte-Catherine à Montréal. Je suis présidente de Femmes autochtones du Québec, puis il y a trois belles femmes qui rentrent. On allume, il y a une roule, ses cigarettes, et on fume, puis on jase. Ils me présentent un projet, ils veulent partir une maison d'hébergement. Puis là, moi, dans ma tête, quel programme, quel financement. Je capote, là, tu sais, je suis vraiment cartésienne, ce qui n'est pas mon style, mais là, oui, je l'étais. Mais... elles l'ont dit, là, on a créé un projet dans notre cave, là, mais on aimerait ça, là, que ça soit vrai. Puis on le sait que ça va être vrai. Bien, c'est vrai. Aujourd'hui, 10, 15 ans plus tard, ils ont à peu près 8 projets en branle. Ils sauvent des vies, ils mobilisent du monde, ils brassent du monde, ils changent du monde. Ils m'ont sauvé 2 fois. Maison d'hébergement pour femmes autochtones en difficulté, puis 5 autres projets, etc., etc. Et c'est là où j'ai dit, Pénélope, peux-tu me guider? Elle dit, ah, ben non, t'es ma mentor, toi. Non, non, oublie ça, toi. Alors, elle a accepté.
La réciprocité?
Oui, ben oui. Ah, j'ai pas pensé à ça. Et Bernie, j'ai toujours été en admiration. Elle doit faire 4 pieds 5, genre, ou 10, là, mais toute mignonne, toute petite, mais on en a peur. Puis, toutes les deux viennent de la communauté des deux esprits. Et Bernie, elle a un vécu hallucinant. Tu sais, juste dans sa famille, il y en a qui sont disparus, assassinés, retrouvés morts. Le fléau de drogue va avoir tué ses frères et sœurs, etc., sa mère. Elle a tout vécu. Et quand elle a su que j'étais commissaire, elle m'a appelée. Puis elle m'a crié après. Puis moi, c'était mon idole. Là. Ça faisait depuis 2001, je la connaissais de loin. Hey, j'écoutais ça, là, mon English était rouillé. Et je dis, attends un peu, là, on va se rencontrer. Et quand je suis allée à Vancouver, j'ai dit, au lieu de me crier après, là, ben c'est vrai ce que tu me dis, là. C'est vrai, là. Peux-tu me guider? Ben ça a été mon ombre, mon devant, mon à côté, mon lève-toi ou arrête-toi. Alors, ça a été des femmes hallucinantes, puis elles le sont encore, là.
Est-ce qu'il y a toujours eu ce partage-là entre les différentes communautés autochtones?
Je te dirais que oui, dans bien des domaines. Des fois, on va avoir nos divergences puis nos chicanes. Hein? C'est humain. Mais il y a toujours quelque chose qui nous rassemble. Puis l'humour, la culture, l'amour. Hein? J'ai des enfants avec un Wendat. Il y a des nations qui vont... J'ai eu des enfants avec une autre nation. Alors, tu te dis... Il y a des choses qui nous ramènent ensemble. Il y a des fondements là, communs, des valeurs communes qui nous ramènent ensemble. Puis après ça, de façon naturelle, on dit, ben ça, moi, je vais retourner plus dans ce que moi, je crois. Alors oui. Puis beaucoup même.
Mm-hmm. J'imagine que des événements comme la commission, aussi, ça rallie les différentes nations.
C'est les deux. Ça nous rallie, ça nous divise, mais ça, c'est quand je dis divise, c'est parce que on va avoir peur d'être sous-représenté tellement que c'est vaste comme chantier et que les besoins sont grands et que c'est souvent on fait ça vite. Hein? Mm-hmm. C'est une demande politique dans un mandat très court. Alors on sait que des gens du Nord vont être moins sollicités ou interpellés. C'est là où ça va diviser. Mm. Alors c'est d'être original, de trouver des façons qui vont accommoder. Et ou qui va aller chercher ce silence qu'on a trop longtemps tassé, là, qui devrait pas être silencieux. Mais sinon, le rassemblement, de voir, quand je l'ai dit tantôt, qu'on va avoir ébranlé une planète au complet, là, ça, c'est, pour moi, c'est un grand rassemblement qui a fait ça.
Comment tu t'es ramassé à la tête de la présidence? Parce que tu disais que ça fumait encore en dedans. donc, si je fais le calcul, tu étais dans ta vingtaine, là, jeune vingtaine.
28 ans. 27, 28 ans.
Tu sais... Et comment tu t'es ramassée là?
À Femmes autochtones du Québec?
Oui.
Je travaillais au Centre d'amitié de Montréal comme réceptionniste, puis j'étais à l'Université du Québec, puis après ça, à Concordia. Je m'impliquais avec le réseau de Montréal là, pour local des Femmes autochtones de Montréal, qui disait, et comme jeune. Puis à un moment donné, il y a du monde qui m'ont dit « Tu devrais faire une petite conférence. On voit du potentiel en toi. » J'étais pas capable de parler en public. Là, j'avais chaud aux mains. Puis c'était sec dans la gorge. Alors, je me suis préparée. J'ai eu des coachs. Puis à un moment donné, après ma conférence, il y a des anciennes présidentes, la présidente qui était là et quelques Québécoises qui ont dit « Je sais pas si tu le sais, là, mais t'es genre à avoir du potentiel, toi, là. » Alors, j'ai été coachée. Et à un moment donné, je me suis présentée, puis j'ai appelé ma mère une semaine avant l'élection. J'ai dit « Maman, je me présente à Femmes autochtones du Québec, tu connais tout ça? » Et il y a eu un petit silence, puis elle pleurait. J'ai dit « Maman, qu'est-ce que t'as? » Elle dit « C'est moi qui ai co-organisé, puis co-créé Femmes autochtones du Québec. »
Non!
Je dis, ben c'est ça, je dis, ben voyons, toi! »
Tu savais pas?
Non.
Impossible.
Ben là, je venais de comprendre, j'ai dit « Pour ça, le drapeau que je trouvais laid dans le salon. » Bastard, c'est le plus beau drapeau! Alors, c'est comme ça que c'est arrivé. Elle m'a coaché sans s'en rendre compte. Elle a oublié de me le dire. Puis je suis allée, puis après ça, elle est arrivée.
Wow! Visiblement, son enseignement, même sans le prévoir, a fonctionné. Là.
Et voilà. Puis elle est tellement fière aujourd'hui.
C'est j'en doute pas, avec raison. Ta première conférence, te souviens-tu de qu'est-ce que t'abordais?
Oui. Fallait que je parle des trois types de gouvernance si on avait l'autonomie gouvernementale en milieu urbain.
Ah ben écoute,
fallait que je dise le rapport de la commission royale d'enquête des peuples autochtones. Puis moi, je suis une artiste, je voulais pas lire, je voulais voir et regarder et entendre.
Ouais.
Et citronnette. Alors fallait que je fasse des dessins. Alors j'ai écrit ça dans mes mots. Puis j'ai présenté ça, j'ai eu chaud. Mais chaud là.
Ben écoute, tu m'as juste dit le titre, puis j'ai eu chaud, là.
Oui, puis j'ai genre 23 ans, là, tu sais.
Aucun bon sens.
Ouais.
Et là, est-ce que t'en fais encore aujourd'hui? Est-ce que tu...
Des conférences?
Ouais.
Oui.
Ouais.
Oui, oui. Puis toute école secondaire, primaire ou collégiale, universitaire, à chaque fois qu'une demande Zoom ou physique, ben moins à cette heure physique, c'est oui. Parce que pour moi, je suis là, waouh, si on peut influencer une ou 14 personnes, let's go.
Est-ce que c'est la question qui me vient en tête, puis je pense pas que c'est nécessairement la bonne question parce que je pense que j'ai la réponse, mais quand même, je te trouve patiente. Je vous trouve patients et patientes d'accepter, et généreux aussi, d'accepter de nous éduquer alors que c'est comme notre responsabilité. Donc, encore une fois, je te remercie parce que... mais mettons, quelqu'un qui ne sait pas par où commencer, quand tu vas faire une conférence dans une école, c'est quoi que tu racontes? Par où tu commences?
Ça va dépendre de souvent, c'est les gens qui ont des sujets sur lesquels on aimerait qu'on élabore. Puis si je ne suis pas capable, bien, il y a d'autres qui vont le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Et des fois, quand eux-mêmes ne savent pas par où le prendre, bien, quand j'avais, dans ma fin vingtaine, là, je demandais, c'est quoi pour toi un Autochtone ou une personne issue d'une Première Nation? Puis je vas-y fort, là, c'est quoi ton préjugé? Et à partir des préjugés qu'on avait mis sur un tableau ou un flip chart, c'était à une époque, là, flip chart, et on déconstruisait pour arriver à qui nous sommes aujourd'hui, là, lors de cette époque-là, évidemment. Alors, c'est là où on va déconstruire les mythes puis expliquer pourquoi on s'est retrouvé avec ce genre de perception ou idée ou pourquoi on pense ça de toi ou etc. Alors, ça va être comme ça que je vais souvent construire une conférence. Mais ces temps-ci, on me demande surtout de parler de l'enquête, ses effets, sa raison, pourquoi, etc., ou le racisme systémique. Donc, il va y avoir des thématiques qui influencent ou des moments qui vont influencer les thématiques, vice-versa. Mais le plus trippant, là, c'est quand on voit ces jeunes-là, puis pas autochtones, là, devenir les ambassadeurs puis brasser leurs institutions pour qu'on oblige une meilleure information et formation. Tu te dis, si, très net, j'aime ça. Puis ça, c'est pas juste à cause de moi, là, c'est un peu tout le monde. Alors.
Mais j'ai l'impression qu'il suffit d'entendre votre histoire, puis on peut pas être froid.
Et la vivre.
C'est ça.
Quand tu la vis, c'est encore plus fort. Un Québécois, tantôt, professeur, qui m'a dit « Je suis ignorant. Je comprends rien. » Mais quand on m'explique puis que je le vis, ça pogne. Ça punch. Puis après ça, tu dis « Ouais, si je peux influencer la relève par mon pouvoir de professeur ou la magie que j'ai comme prof, ben, ouais. » Mais il a dit la même affaire. Il trouvait que j'étais patiente. Il y en a qui ne le sont pas, puis je vais le dire aujourd'hui. Pourquoi des gens vont bloquer des routes? Pourquoi des gens vont manifester ou faire des grèves de la faim? Pourquoi des gens vont crier plus fort que moi? Bien, ils ont atteint leur limite de patience. Moi, ma limite d'impatience, je l'ai vécue en dépression, en burn-out, en plus vouloir le goût de vivre. Bien, ça ne me tente plus d'aller là. Fait que quand je perds patience, ben je respire. Je me donne des outils pour rester après ça dans la zone que j'aime mieux.
T'appelles Nokum Bernie.
Je texte Nokum Bernie, c'est plus vite.
À texte Nokum Bernie.
Ben, qu'un.
C'est la plus in des in.
Ça va vite, c'est instantané.
J'aimerais ça avoir un... Que tu me racontes... Parce que, tantôt, je te disais que vous avez une poésie, vous avez un romantisme. Dans ton enfance, j'aimerais savoir m'imaginer c'était quoi grandir chez vous.
Ah, c'était le fun! Tu sais, ma mère et mon père, ils ont su bien gérer le racisme. J'avais pas le droit de grandir dans la communauté qui est celle de ma mère, Matimekouche.
Parce que...
Elle avait marié le plus beau Québécois.
Voilà.
Fait qu'elle perd son statut, là, en guillemets, de femme indienne.
Est-ce que c'était bien reçu dans la communauté?
Ça dépend. Oui puis non. Mais c'est pas bien reçu plus tard.
OK.
Où là, elle va... Ils se divorcent toutes les deux. Elle a pas le droit d'être réinscrite dans sa bande. Ça s'appelle comme ça, là, une bande.
À cause de la loi sur les Indiens.
Exactement. Qui était l'acte pour l'émancipation graduelle des sauvages. Donc, on voulait nous assimiler puis nous effacer. Alors, elle retourne. Puis là, moi, c'est là où c'est trippant. Jusqu'à temps que je commence à vivre une violence physique, là.
Là, t'as quel âge à ce moment-là?
J'ai de 6 à 11. Okay. C'est le fun. À 11, à 6 ans, j'arrive à Sept-Îles, l'école québécoise. Hey, maman, on m'a donné un surnom, c'est trop cool. Ben, j'ai pas dit cool, là.
Ouais.
Mais c'est le fun. Kawish Nanan a dit, accepte jamais ça. Là, on vient de t'insulter parce que t'es inou. OK. Donc, j'ai moins d'amis. Finalement, je pensais que j'étais cool.
Kawish Nanan, c'est une...
Ah, c'était une insulte totale.
Une insulte totale.
Oui, okay. Envers les Inuits. Ça, c'était à Sept-Îles. Puis, une fois qu'on réussit à s'installer à Malio, ma mère va vivre dans un sous-sol, dans des cabanons ou dans des tentes.
Malio, ça, c'est...
Malio de Ténam, excuse. C'est... À côté de Sept-Îles.
OK.
Oui, merci. Puis, moi, je trouve ça le fun. Mais elle est en train de combattre aussi le racisme ou la discrimination que sa propre communauté lui fait parce qu'elle avait marié mon père.
Incroyable.
Mais personne, elle n'avait pas le droit de s'acheter une maison parce qu'elle n'était pas inscrite, réinscrite.
Mm-hmm.
Fait que moi, je disais, hey, on fait du camping, c'est le fun. Mais là, à un moment donné, des adultes commencent à me cracher dessus, me pousser, me pitcher du liquide ou des chaises à côté de moi. Maudite voleuse de job, excusez, j'ai sacré. Ou on me traite de nom, mais j'ai 11 ans, là. Là, ça fesse. Là, je réalise. Maman, pourquoi les gens me disent ça? Puis là, elle pleure, puis elle est fâchée, puis parce que j'ai marié ton père. Puis à 17 ans, elle me dit, bon, ben signe ici, t'es rendue indienne. Parce que la loi venait de changer. Ah, là, je vivais une autre forme de violence parce que j'étais pas une vraie. Alors, ça a été tough, mais en même temps, Malio de Ténam, les grands espaces Chefferville, les grands espaces, la chasse, la pêche, la trappe, le fleuve...
C'est tellement beau, la Côte-Nord. Oh, c'est tellement beau.
Puis le rire entre amis, oh, les petites amourettes... les premiers essais de... c'est là que je vais les vivre dans ma communauté. Et avec des Inuits, tu sais, avec une moitié de moi, ma culture, j'ai trippé. Et quand j'arrivais à Québec, ben, à Saint-Lambert, là, qui est Longueuil, je crois, aujourd'hui, hey, c'était plus cordé, là.
Ouais.
Telle heure, on soupe, telle heure, on rentre, puis telle heure, c'est ici. Puis, hein, où est la liberté? Alors là, c'était comme deux mondes, là, le clash. Alors, j'ai trouvé ça tough. Mais aujourd'hui, je suis contente. Je pense que c'est ça qui m'a donné des outils pour vivre.
Assurément. Je sais que Jamie me parlait de la forêt. Elle est Atikamek. Elle est de la communauté Atikamek. Donc, je sais que la forêt était quelque chose de très, très spécial, très unique. Si je ne me trompe pas aussi, elle m'expliquait que, du moins, amour ou je t'aime, c'est aussi le mot pour eau ou lac, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'en arrivant ici, justement, à Longueuil, la nature, est-ce qu'elle te manquait?
Ben oui. C'est drôle. J'ai des images. Il y a un parc proche du fleuve, là, où les gens vont courir, ouais, à Saint-Lambert. Et c'était automatique. J'allais en dessous des arbres. Puis là, il y a 12 ans, à peu près 11 ans, là, j'allais en dessous des arbres. C'était ouais. Mais il n'y avait pas beaucoup d'arbres. Donc, non, c'est souvent ça. Le même spot. À un moment donné, tu commences à réaliser qu'il y a d'autres gens qui utilisaient des plus vieux là, pour d'autres choses et des parties, etc. Tu dis, ah, bah, des drôles d'odeurs. Mais oui, c'était... Puis ce l'est encore. Quand on va à Rivière-Georges, au Mouchouanepi, il n'y a pas beaucoup d'arbres là-bas, mais le sentiment de liberté. Zéro technologie, puis la présence de mes ancêtres. On le voit, là, les roches, l'archéologie est frappante et est évidente. Tu te dis, mon Dieu, ça fait 9500 ans là, que c'est prouvé là, qu'on est ici. C'est beau. Fait que... Montréal, je vais avoir aimé, mais je vais l'avoir senti, ce qui me manque, ce sentiment, même à Québec, là, de grandeur, de grands espaces.
Ça fait 9500 ans.
Mm-hmm. On a des objets qui le prouvent, oui, par les carbone 14.
Incroyable.
Ouais.
C'est incroyable. C'est émouvant, moi, je trouve. Ouais. Je trouve ça triste qu'on n'enseigne pas cette histoire-là parce que c'est tellement une belle histoire. Mm-hmm. Dans le sens, l'histoire devient tragique à un certain point, mais si on recule, je suis persuadé que l'histoire est magnifique.
Elle est magnifique. Elle est généreuse, elle est accueillante, elle est mystique. On parle de mammouth dans nos récits. La tradition orale, là,
Incroyable.
Puis t'as des Québécois anthropologues qui ont dit ça doit être des mammouths parce qu'ils parlent d'une grosse bête poilue avec telle corne et fait qu'on était très présents là, puis on l'a gardé. Alors les gens vont dire légende là, moi je dis récit.
Ouais. J'adore ça. J'adore ça. Qu'est-ce que... Parce que là, on a parlé de ta mère, de ses enseignements qu'elle t'a partagé directement ou indirectement. Mm-hmm. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu essaies de partager à tes enfants? Parce que visiblement, de par ta présence ici, tu le fais avec le public, les gens qui t'écoutent, mais à l'intérieur de ta famille ou de ta communauté?
Ce que j'essaie de partager avec mes enfants, beaucoup, beaucoup de choses. Des fois, Amun ou Wapen, puis le trio aussi, « Ah, j'aimerais ça faire ce que tu fais dans la vie. » Ouais. Ben, fais pas ce que je fais dans la vie de la même manière. Va à l'école. Moi, j'ai arrêté l'école. Il y a eu des raisons pourquoi j'ai arrêté l'école. Puis aujourd'hui, je veux pas que mes enfants fassent ça. Fait que j'essaie de partager l'importance de poursuivre à leur rythme l'éducation. Mmh. C'est très, très, très personnel. Et ensuite, ce que j'essaie de partager à mes enfants, c'est de pas faire un choix parce que c'est très international chez nous. Il y a beaucoup de nations au sein de mes enfants, de par leur père, de pas faire un choix, une au détriment de l'autre, mais d'élever et d'honorer les deux nations qui sont, dont ils sont et elles sont porteuses. Alors ça, pour moi, ça, c'est important. Puis, lorsqu'il y a des situations de racisme qui vont émaner à cause de l'école, les réseaux sociaux, de ne pas répondre de la même manière, de s'élever au-dessus de ça puis de dire, non, je ne suis pas obligée d'accepter, mais je ne parlerai pas de la même manière parce que je ne veux pas qu'on me le fasse. Mm-hmm. Ça, là, je leur rappelle l'importance de... Puis j'essaie de faire en sorte aussi qu'ils puissent, quand ils vont trouver leur espace, d'être bien. Si un, c'est d'être technicien en informatique, c'est génial. L'autre, s'il veut être premier ministre du Canada, c'est pas vrai, là. Mais il avait dit premier ministre quand il était petit. C'était cute. Mais il veut plus être ça, anyway, là. Mais tu sais, c'est de les encourager. C'est ça, je vais leur dire, je suis un peu stressée de ton choix, mais en même temps, il faut que je t'encourage dans ton choix. Mm-hmm. Parce que mon père m'a toujours et ma mère encouragé malgré les stress que j'ai pu leur donner. Ouais.
Mais en même temps, t'as fait changer les choses, tu sais, qui fait que c'est un stress qui est vraiment compréhensible. Je suis pas parent, fait que je peux même pas m'imaginer comment un parent peut se sentir quand il voit sa fille aller au front avec douceur alors qu'elle a toutes les raisons d'être agressive. Puis comme parent, t'es comme, mais défends-toi, là, c'est... Oui, Colin, tu sais, et de la laisser aller aussi. Pour moi, tu sais, t'es pas en contrôle, tu veux défendre, mais en même temps, visiblement, ton enfant est en train de te défendre aussi, oui. Et de défendre ses proches. Il y a quelque chose de...
Ben, ma mère a pleuré beaucoup pendant l'enquête. C'est drôle que tu dis ça. Parce qu'elle est douce, ma mère. Elle a déjà été plus tough, mais on l'a toutes été plus tough. Là. J'étais pas toujours douce de même. Là. Fait que... Les profs, il y en a qui ont même oublié que j'ai déjà été tough. C'est drôle. Et pendant l'enquête, ça y faisait de la peine de voir qu'on pouvait m'attaquer de façon personnelle ou attaquer l'institution. Ou là, avec ce qui s'est passé avec Joyce, de la revoir et de l'entendre dans l'émotion... C'est comme si elle sentait mal d'être pas agressive, mais de vivre cette agressivité-là. Puis là, je dis, non, maman, t'as le droit, là. T'as le droit, mais c'est... J'y ramène un peu sa médecine, tu sais. Veux-tu rester là, puis je vais être crue, là. Genre, c'est pas ça qu'elle me disait, mais genre pourrir, puis avoir un cancer, puis aller dans ce que t'as trouvé ça plate, là, une dépression, ou, OK, je passe à l'action. Let's go.
Ouais.
Ça risque d'être long, mais au moins, je vais essayer de semer des petites actions pour amener peut-être un petit ou un grand changement.
Mais ouais. Évidemment, on parle souvent de racisme systémique. Des fois, le mot en devient comme tout de suite désagréable à entendre. Je me souviens pas avec qui je parlais de ça ici même, mais je trouve que ceux qui doutent de ça ralentissent la conversation. Parce que C'est comme, on n'a pas le temps. Là, on n'est plus rendu là dans la question à savoir si tu vrai ou si tu pas vrai. Les témoignages nous prouvent. Donc, en ce moment, notre opinion par rapport à « c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? » Dans ouais. ma tête, c'est comme « on perd du temps.
Ouais. »
On est rendu ailleurs dans ce je peux même pas croire qu'on appelle ça un débat, mais dans cette conversation-là ou dans cette malheureuse réalité-là, est-ce que...
Ben, moi, je me dis pour essayer de rester calme.
Oui, c'est ça.
Parce que des fois, tu sais, je le vois là, aux nouvelles, là, les visages. On va juste parler de visages. Qui fait le débat sur le racisme systémique. Ben, des fois, j'ai l'impression que ce ne sont pas les personnes qui sont confrontées à ça ou qui ont été confrontées. Mais vont le dire quand c'est l'anglais, le français, lorsqu'on parle du Canada.
Ouais.
Mais c'est dommage, mais c'est la communauté noire, une communauté culturelle ou autochtone qui va devoir justifier, prouver et débattre. Bon, ça, moi, des fois, je suis fatiguée. Alors, je suis moins sur la place publique pour ce débat, là, mm-hmm. puis je me dis, ben, faut qu'il se fasse. On est fait de même. Faut que les gens s'ostinent. Citronnette, ben, allez-y. Ça a pris 30 ans pour que les femmes puissent voter. Ça a été long, là. Imagine, nous autres, on arrive avec discrimination systémique. Ah, non! Racisme systémique. Ah! Pire que ça, l'enquête nationale. Mon père avait peur quand j'ai dit, pas, je te le dis tout de suite, une des constatations puis des preuves, c'est plus génocide culturel, c'est génocide.
Mm-hmm.
Va pas là. Va pas là, tu vas perdre ta crédit. Il y avait de la peine, puis il y avait peur pour moi. Ben, je suis pas là pour plaire. Je donne des faits.
Ouais.
Ben là, on parle même pas de génocide, là. Mais peut-être dans 30 ans. Mais au moins, on va semer dans la réflexion de la société puis des États que ça va être un autre débat plus tard. Mais il est là, il attend.
Mais c'est, j'entends là-dedans beaucoup de la réticence à accepter la réalité ou les faits. Je sens qu'elle vient beaucoup d'une espèce de un orgueil mal placé.
Sûrement.
Tu sais, parce que...
Sûrement.
Ça fait mal de savoir que c'est un génocide. Évidemment que ça fait mal, puis que c'est honteux.
Même moi, j'ai eu peur de le dire, là.
Mais j'imagine. Comment ça s'est passé?
Ben, à Moon, quand je restais sur la rue Jeanne-Mance, son milieu de garde, c'était une femme du Rwanda. Puis elle m'a raconté son histoire. Ça, pour moi, c'était ma définition. Donc, mon imaginaire visuel s'est arrêté à ça. Et avec l'enquête nationale...
Parce qu'elle te racontait ça, excuse-moi, je t'ai coupé, mais elle t'a raconté ça et ça résonnait en toi.
Plus tard. Plus tard.
T'as compris que t'avais vécu la même chose.
Pas nécessairement. C'est quand la commission de vérité et réconciliation, c'est important, merci, j'ai pas fait ce lien-là, arrive avec génocide culturel, j'ai rejeté le concept. J'ai rejeté le constat moi-même, là. Moitié nous, moitié québécoise. Voyons donc! Là, avec Radio-Canada, j'essayais d'être poli là, lors des entrevues TVA ou en tout cas les postes au Québec. Ben non! Parce que j'avais même pas fait mes devoirs moi-même. Ou c'est quoi la définition? Et quand l'enquête, on est là sur un petit post-it au début, génocide culturel, t'es comme commissaire, peut-être qu'on va le prouver, peut-être que pas... Qu'après ça, tu te dis, mon Dieu, les enfants de Pakwashipi tombent malades dans les années 80, 70-80, traversent la rivière, disparaissent. 40 ans plus tard, sont où? Pas un, mais une dizaine d'enfants. Après ça, tu te dis, hein, c'est pas juste une dizaine, c'est une quarantaine au Québec d'enfants qui sont disparus. Ah ben, citronnette, ça tombe dans la définition de génocide. Enlever un enfant d'un milieu, puis le mettre dans un autre milieu. Après ça, stérilisation forcée, déportation forcée, Ben voyons, dans cette même communauté-là, il y a 4 formes de génocide qui pourraient être nommées. Puis après ça, tu multiplies ça par le reste de tous les témoignages à travers le Canada. Tu te dis, ouais, peut-être que l'État avait une stratégie de faire en sorte que on va exterminer ou tasser ou diminuer les nations autochtones. Alors, après ça, c'était d'aller chercher des gens qui parlent le jargon juridique, mais aussi français et anglais, qui amènent ce débat-là. Parce que si c'était moi, ben, je vais me faire, comme dit Bernard, j'ai oublié son nom de famille, un ancien ministre conservateur. It's a bunch of propagandists. Mm. Il nous a traités de propagandistes, je ne sais pas c'est quoi en français, là. Mais j'étais là, non! Oh, c'est ça, c'est ce qu'ils pensent. Moi, je sais. Maintenant, je le sais. On l'a vécu.
Et donc, quand t'es revenu, puis t'as annoncé que c'était un génocide, point,
ouais.
qui est un mot qui est lourd de sens, et
ouais.
qui basé sur des faits, mm-hmm. basé aussi sur une recherche.
Oui, puis une analyse juridique. Ouais.
C'est ça. Ça a été quoi la réaction, puis qu'est-ce que ça a changé dans cette commission-là?
À l'interne, ça a été de faire comprendre à notre équipe, nos équipes, puis d'autres, c'était tellement évident. Puis d'autres, you sure you want to go? T'sais, la plupart, c'était des anglophones. Mm-hmm. Vous êtes sûr que vous allez vers là? Vous allez tout perdre votre crédibilité. Puis après ça, ça a coulé. Ça, c'est stratégique. Hein? Les gouvernements avaient accès à notre document. Donc, ça a coulé. Donc, ça permet de voir comment on peut préparer des réponses gouvernementales. J'imagine, ça, c'est un préjugé. Excusez-moi. Là, de ma
part. Quand tu veux dire, ça a coulé.
Le rapport a coulé avant le dépôt officiel.
OK. Donc, il ne s'est pas rendu.
À quelques jours avant de se rendre. Donc, des gens des différentes institutions savaient qu'on allait parler du génocide. Alors, ça a coulé, ça a spiné, ça a fait couler d'encre.
Oui, oui, OK, parfait.
Alors, tout ça pour dire que on va avoir des endroits qui vont complètement rejeter. D'autres vont faire, oh, OK, ils ont enlevé le mot culturel qui est socialement... plus acceptable quand la Commission de vérité et réconciliation sur les écoles résidentielles va avoir nommé ça. Là, on parle de, puis on explique pourquoi, puis on a une juriste, avocate québécoise et son équipe qui dit pourquoi. Alors, en anglais et en français. Fait que moi, ce que ça me dit, c'est qu'on vient d'amener un outil à ceux et celles qui prétendent que oui et à ceux et celles qui prétendent que non, puis les indécis. Bon, maintenant, vous l'avez, là, l'outil, avec des preuves. Continuer à réfléchir, à débattre, à instruire ou à croire ou à décroire, mais on vous a donné des preuves. Ça, ça vous appartient. Puis ça, c'était mon devoir de le faire. T'as les Nations Unies qui ont réagi tout de suite. T'as l'Organisation interaméricaine qui a réagi tout de suite en disant « Ouais, bon, ben peut-être qu'on doit regarder ce que le Canada doit répondre aux prochaines rencontres onusiennes ou interaméricaines. » Fait que c'est pour ça que je dis qu'on a fait bouger une planète.
Mm-hmm.
Est-ce que ça fait plaisir aux gens? Non, c'est normal, ça dérange. Mais au moins, sur le plan juridique, social et politique, puis mouvements sociaux, il y a un outil qui existe pour réfléchir.
J'imagine qu'à ce moment-là, tes parents, comment ils ont réagi, j'imagine?
Ma mère pleurait, elle me dit « T'es courageuse, c'est ça qu'on vit. » Puis c'est pas, il y a toutes sortes de formes de génocide. T'sais, c'est pas mourir massivement d'un coup sec. C'est à petit feu et à long terme, mais pour être sûr que ça ne revienne plus.
Mmh.
Et du côté de mon père, il a eu peur, mais le jour où on a remis le rapport, là, il avait bien plus de larmes que ma mère. De fierté, puis de, tu sais, de marcher à côté de sa fille, puis d'assumer que sa fille, elle a fait un choix. Fait que ça, pour moi, je suis contente qu'il soit encore là.
Mais le choix de la vérité?
C'est, oui, mais tu sais, quand ça dérange la vérité, ça crée des divisions, des déchirures.
Aujourd'hui, j'imagine que tu te réjouis d'avoir fait ce choix-là.
Réjouir? Pas vraiment! Mais je comprends ce que tu veux dire.
Évidemment que c'est un choix qui est difficile à faire.
Oui.
Tu sais, je me réjouis évidemment pas de la situation que t'exposes.
C'est parce que ça m'a fait sourire, puis je suis pas mieux. Là. C'est sûr que ça apparaît pas dans le son. Là. Peut-être dans le YouTube, mais... On a pleuré de fierté. Les Québécoises qui ont participé à ce document-là, puis l'équipe, puis c'est toutes des juristes, puis moi, la militante. Puis ils me disaient toutes non, on peut pas, ou non, c'est pas faisable. Puis j'ai poussé. J'ai dit, arrêtez de penser qu'on peut pas. Puis que, après ça, t'as Kaya, l'ancienne commissaire, qui dit, I hope you know it's because of you. Ben, j'ai dit, probably, mais si toi, tu m'avais pas aidé, j'aurais été tout seul, puis ça aurait pas bougé. Puis Fanny qui me dit, j'espère tu sais que c'est à cause de toi. J'ai dit, si toi, t'avais pas fouillé dans nos preuves, puis signé ce document, j'aurais beau dire, je pense qu'on a quelque chose ici. Je pense que c'est collectivement Alors, j'ai voulu repartager cette fierté-là ou cette
Mais ça revient, à, ça revient à ce que tu disais tantôt, la puissance individuelle.
Oui.
Donc, ça oui. partait de toi. Évidemment, tu as probablement inspiré les gens autour de toi et les personnes autour de toi à te suivre là-dedans avec leurs forces et leurs connaissances à eux et elles, qui a fait en sorte que chacun, vous avez fait ce choix-là individuellement et oui, finalement, vous avez fait... Ça a fait influencer la planète au complet. La planète au complet vous a regardé finalement, mais ça partit d'une personne qui finit par choisir de dire la vérité. Tu sais.
Nous avions fait le choix collectivement, mais on ne s'était pas donné les outils pour que ça bouge. Puis moi, là, quand ça ne bouge pas, ça me dérange. Mm-hmm. C'est là. Là, ça, je vais le prendre, ça. Donc, oui. Là-dessus, oui. Tu sais, c'est des femmes qui ont des témoignages. OK, mais là, tu fais quoi? Arrêtons de rester assis, on le met-tu dans le rapport? Non, non. On le met, mais avec des preuves.
Là, une journée, mettons, de témoignages, comment ça fonctionnait à ce moment-là?
Quel courage. Premièrement, c'est du courage pour ces personnes-là. 40 ans de silence où c'est des gens qui ont pris toutes les places publiques pour expliquer ça. Donc, on avait un mix là, de personnes qui venaient parler. Comment ça ressemble, c'est qu'il y a toute une préparation des gens qui vont aller sur le terrain avant, rencontrer les familles, leur demander quel type de témoignage qu'elles voulaient, d'approche, et ainsi de suite, tant psychosocial, spirituel, et est-ce que c'est en public, privé ou écrit. Et après ça, les gens à l'époque disaient « Ah, ça va être très protocolaire. » Non, 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 c'est des gros câlins. Et c'est là qu'on nous enseigne la réciprocité. Donc, on les accueille et la personne venait accompagnée de plusieurs ou juste une personne. Et si c'était public, on lui laissait le temps qu'elle voulait pour parler dans la langue de son choix, autochtone, anglais ou français. Et elle était entourée de gens, mettons, si c'était des aînés qu'elle préférait avoir ou un ex de la GRC. C'était vraiment à respecter. Après ça, on lui donnait un petit cadeau. Parce qu'elle nous a donné un cadeau, sa vérité. Et on lui donnait des cadeaux qui viennent de différentes nations pour lui dire merci. Et avec ça, nous, on va essayer de développer des questions pour les institutions que tu as soulevées ou mentionnées. Alors, c'est dans l'émotion beaucoup, dans la spiritualité, des fois dans le « par où je pogne ça? Hein, » parce que c'est tellement gros. Et par la suite, les gens quittent. On espérait, puis ça, des fois, on l'échappait, des fois, on l'avait, que toute l'équipe pouvait encore l'accompagner pour les 6 mois qui allaient suivre. L'équipe qu'on appelle de santé communautaire ou des gens du milieu, pour être sûr que la plaie soit... Parce qu'ils réouvraient une plaie, là.
C'est clair.
Ouais. Et des fois, les gens tombaient. Fallait les sortir quasiment en ambulance, tellement que c'était trop. Puis d'autres, tu les vois dans les réseaux sociaux, ils ont réouvert des dossiers, ont trouvé des réponses. D'autres sont devenus des leaders. Fait que là, t'as toutes sortes de succès ou de tristesse, mais ça ressemblait à ça une journée. Et c'était intense.
C'est sûr.
Intense. Puis des fois, on se faisait attaquer. Puis c'est là, fallait rester calme parce que... OK, rappelle-toi, t'es juste... un outil parce que tu représentes l'institution qui l'a bafoué ou tu es l'institution qui a échappé de quoi tout croche, là. Alors, assume. Ça vient avec les responsabilités. Puis des petits cadeaux après. Ils se donnaient des petits cadeaux, des petits câlins. On broyait notre vie, on riait, on se sentait légère. Ça ressemblait, de mon point de vue, là, à ça.
De ce que j'entends... De ce genre de journée-là, évidemment que j'entends la tragédie, j'entends la tristesse, j'entends la souffrance et tout ça. Mais j'entends aussi beaucoup de chaleur humaine, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de compréhension, d'ouverture, de douceur, encore une fois. Avec la vague de dénonciation... qu'on a vécu cette année avec le hashtag MeToo qu'on a vécu en 2017. Est-ce que le genre d'expérience que tu as vécu à la commission, il n'y a pas là-dedans peut-être une manière de revoir comment on reçoit une victime dans le système judiciaire?
Carrément. Parce que la même organisation, la commission là, sur l'ANFADA, là, les femmes assassinées disparues, lorsqu'on était avec les familles et les survivants et survivantes, on avait cette douceur-là. Aussitôt qu'on est arrivé avec la partie institutionnelle et expert, là, citronnette qu'on ressemblait à un tribunal. Et que j'aimais pas ça, mais on était revenu à un concept traditionnel de la partie ayant la qualité pour agir sont assis là, les témoins sont assis là, puis blablabla. Là, j'étais comme, oh my God, c'était tellement plus mon monde, là. Mais en même temps, c'était d'aller challenger en quelques minutes ou questionner. Mais c'est là où, encore une fois, là, des avocates, des gouvernements, certains hommes aussi, avocats, là, ont dit « Je ne ferai plus jamais mon travail de la même manière.
Wow. »
Quand je vais recevoir une victime ou une personne touchée par un ou plusieurs traumatismes. Vous m'avez enseigné, vous m'avez ébranlé, vous m'avez sorti de mes zones de confort, vous m'avez dérangé. Mais maintenant, là, quand je travaille, puis des fois, j'en voyais avant la COVID là, à l'aéroport, en anglais surtout, « Regardez là, ce qu'on a fait. Je vais vous envoyer. On a viré de quoi là, de bord en bord à cause de votre approche. » Ah, intéressant. C'est minime, mais tu dis, ouais, ça répond à ta question parce qu'il y a des gens qui ont voulu faire différemment.
Est-ce que c'est utopique de penser que ce serait possible de ramener un petit peu de douceur puis d'humanité dans ce genre de contexte-là?
Il faut.
C'est ça qu'il faut.
Il faut. En peu de temps, les gens, ils doivent en passer du monde. Puis le lien de confiance, quand il est établi, là, le dialogue est beaucoup plus fluide, plus profond. On a plus d'informations, puis si c'est cordé, ça va tout croche, là, fait qu'on échappe beaucoup de choses. Alors, humaniser, mais c'est le manque de temps, j'imagine, qu'on nous donnerait comme argument, là, mais il faut.
C'est vraiment... J'ai toujours des frissons. je te remercie encore une fois d'être ici, Michel, c'est vraiment, vraiment apprécié. Qu'est-ce qui est... c'est quoi la suite? C'est quoi... on a parlé, évidemment, de ce que l'Université Laval veut faire comme mouvement, mais la conversation avec le gouvernement, es-tu là? Je sais qu'à Tout le monde en parle, tu étais accompagné du chef Atikamekw.
Oui, Constant.
Qui est extraordinaire.
Vraiment.
Est-ce que cette conversation-là est plus ouverte? Est-ce que... parce que... C'est pour ça que je reviens beaucoup avec la patience. Je vous trouve patient parce que c'est un dialogue de fou. C'est vraiment un dialogue de fou. Puis c'est de la politique, puis ça joue, puis c'est froid, puis tout ça. Mais concrètement, là, c'est quoi qui se passe? C'est quoi la suite?
Ça, c'est les thérapies qu'on a avant nos réunions avec les politiciens, là, entre via les Zoom à ce temps, là, pour arriver après ça. Puis des fois, non, il y a des gens qui perdent patience, là. Il y a des gens qui perdent patience, là. Je les entends, je les écoute et des fois, ça peut être « Ah, merci, ça fait du bien de voir qu'il y a quelqu'un qui brasse ça. » Mais c'est quoi que ça prend? Moi, je le dis souvent, bon, on a un nouveau ministre là, en ce moment au secrétariat aux affaires autochtones. Ben, il semble avoir plus de dialogue avec le chef régional et le leadership autochtone. Bon, ben ça, il faut que ça soit maintenu. Mais il faut aussi s'assurer qu'on n'est pas juste là pour faire de belles petites annonces puis couper un ruban, mais d'avoir un espace de dialogue où est-ce qu'on peut s'ostiner un peu,
ouais,
dire les vraies choses, pas obligé d'être au grand public. Puis ça, M. Lafrenière, on se l'est proposé, de pouvoir le faire informellement, comme sage ou comme grand-mère ou comme femme, là. Alors ça, pour moi, c'est une première, puis ça, je vais le saluer, mais ça dure combien de temps? C'est encore la volonté d'un individu et non une culture organisationnelle. C'est ça qui manque, la culture organisationnelle. Et je me dis tout le temps, pourtant je l'ai dit à quelques reprises, j'aimerais ça m'en prendre un café avec M. Legault pour lui dire, regarde, je suis sûr que t'es un bon gars, je le sens, je t'ai déjà vu dans une autre vie, je t'ai déjà entendu aussi dans une autre vie, mais comment ça se fait que dès qu'il y a des dossiers qui touchent la question autochtone, c'est comme s'il y avait un malaise? Faut qu'on le crève, l'abcès. Mm-hmm. Qu'on n'est pas une nation, nous sommes plusieurs. Mm-hmm. Donc, cette diversité-là aussi, il faut la respecter. Alors, je ne sais pas, le statu quo, il faut le briser.
Oui.
Faut le briser.
C'est plate que cette conversation... c'est inévitable que cette conversation-là passe par le politique, mais le politique est tellement là pour être élu que malheureusement, des fois, on en oublie justement l'humain, je trouve, de revenir à la réalité de la souffrance, la réalité de qui se passe dans les réserves et autour, et de voir que il faut arranger ça, il faut fonctionner ça, il faut rallier ça. Je sais qu'il y en a qui le font super bien. Tu sais, j'ai eu la chance de faire de la tournée au Québec, donc j'ai quand même été un peu partout. Puis je sais que, mais à Amos, je sais que ça se passe bien. Tu sais, que les communautés se parlent et qu'il y a un partage et de la réciprocité et de l'échange. Alors que, ben, ailleurs, c'est pas nécessairement la vérité, tu sais. Mettons quelqu'un qui est à l'écoute en ce moment puis qui entend parler de ça pour la première fois et qui souhaite aider ou accompagner ou comprendre ou participer à ça, c'est par où on commence?
Il y a plusieurs façons de s'auto-informer. C'est déjà un bon départ si on prend référence à, je sais pas moi, la littérature qui existe là, dans l'immédiat, mythe et réalité qu'on retrouve là, sur le site de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Juste ça, là, c'est un document 3e édition qui donne une bonne base sociopolitique des questions autochtones ici au Québec puis au Canada. Ça, c'est déjà un bon départ. Mais mettons que je vais fouiner puis que chez Gadon, le Québec, en ce moment, il y a deux grandes consultations qui se passent. Une sur la sécurité publique, le rôle policier, son mandat, etc. On regarde qui sont les membres du comité. Il y a zéro autochtone. Puis Dieu sait qu'elle est dysfonctionnelle. On a eu une commission vient à cause des relations dysfonctionnelles entre la police et les femmes autochtones. Puis il y a une commission en FADA Québec là, qu'on va avoir co-signée. Là, tu te dis, bon, ben là, OK, ça peut-être de rappeler au gouvernement l'importance d'avoir une voix ou des voix des Premières Nations et Inuits. L'autre, c'est à chaque temps d'année, on parle de 10 ans, des fois 18 ans, des fois 15 ans, le Québec va revoir ses compétences en matière d'éducation et d'enseignement. Les prochains profs là, qui s'en viennent. Mmh. On leur a proposé, un groupe d'Autochtones et d'universités, de créer une 15e compétence sur les questions historiques et contemporaines des premiers peuples. Non.
Pourquoi?
Je sais pas.
Non. Juste non.
Non.
Juste non.
Qu'on va nous mettre un petit peu par-ci, par-là. Non, non. Non, non. Les groupes québécois et autochtones vous ont dit, c'est ça qu'on veut. Puis c'est là que ça se passe. Alors, si quelqu'un voulait aider, peut-être de dire, hey, on a la chance de revoir l'histoire et de former notre élève de demain, là, mieux outillé sur les questions autochtones au Québec comme au Canada. Pourquoi ne pas ajouter cette 15e compétence? Alors, le Conseil en éducation des Premières Nations, le CEPN, a parti cette démarche-là. Puis je me disais, Alors, j'ai même dit au ministre Lafrenière, vous avez là l'opportunité d'être différent des autres, de faire votre marque dans l'histoire. Fait que ça, c'est quelque chose que les gens pourraient, là, dans l'immédiat, dire, youh, il y a une compétence qui est proposée, là, qui pourrait être bénéfique pour tout le monde.
Mais oui. Mais puis...
Moi, je sais pas pourquoi c'est non.
Mais c'est parce qu'en plus, c'est dire non à la vérité, c'est dire non à l'histoire, c'est dire non à... En fait, c'est dire non à ça, je trouve que c'est quand même aussi une espèce de... C'est démontrer qu'il y a des gens qui souhaitent pas que ça change. Et ça, c'est super... C'est terrible, tu sais, c'est...
Ouais.
J'essaie de pas être fataliste, là, ou, tu sais, mais c'est ça la vérité, là, tu sais. Dire non à la vérité, c'est comme, ben, parce qu'elle t'arrange. C'est pas complaisant, c'est injuste, puis c'est dur, la vie, tu sais, mais en ce moment, on est super privilégié, puis toi, on dirait que c'est comme, ah non, je vais continuer dans ma petite ouate, puis.
Ouais, alors, c'est ça. Alors, c'est pour ça, moi, que je me dis des fois, ce sont des actions de même qui fait qu'on. On se repogne encore plus tard à se dire les mêmes affaires. Tu sais, Ghislain, ça fait longtemps qu'il fait de la politique, Ghislain Picard. Ça fait longtemps. Il doit être découragé, lui aussi, des fois. Mais là, tu sais, je me dis, il y en a beaucoup. Alors, on a plus d'alliances, plus de nouveaux visages, de gens que j'ai jamais vus dans les manifestations ou des gens qui vont débattre ou échanger sur ce qui nous touche. Je dis, ah, bon, ben ça, c'est encourageant. Mm-hmm. Puis il y a une jeune relève qui demande aussi au gouvernement en place pourquoi ce statu quo-là, il faut arrêter. Alors ça, c'est encourageant. Mm-hmm. Mais avoir eu 22, 29 ans, 30 ans, je pense que j'aurais été beaucoup plus, pas agressive, mais...
Intense.
Ouais, avec le refus de la compétence 15. Là, ouais. J'essaie de comprendre pourquoi. Mais ce qui me soulage, c'est qu'il y a 3 universités qui ont dit, OK, puis sûrement d'autres, là, qui ont dit, vous voulez pas le faire? Ben nous autres, on va le faire.
Extraordinaire.
On va informer notre nouvelle relève, là. Mais il faut que le gouvernement embarque, là, mais une chance que les universités l'ont pris le virage.
Mais ça revient au communautaire. Ça revient au communautaire. Les universités qui font le choix humain, individuel, de faire hey, « nous, on va le faire
».
Puis
ça, je les remercie. Là.
Mais
c'est,
oui.
C'est une chance qu'elles ont fait ce virage-là.
Extraordinaire. La commission vient. Comment ça s'est passé? Ça a-tu été concluant?
Pour ma part, d'où je suis, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont travaillé à l'intérieur, même si on sait que c'est difficile. Là. C'est pas évident, c'est pas parfait, peu importe national où on vient. Là. Et c'est que encore une fois, même si on dit on était écœuré d'avoir des commissions, moi, je suis encore dans l'école qui est... C'est un document qui est actuel, qui permet de prouver qu'encore aujourd'hui... Pendant ce temps-là, on milite ou on mobilise, on écrit des poèmes ou on chante ou on danse, là, ou on fait les changements. Mais ces outils-là vont permettre de nous actualiser puis de nous mettre à jour. Fait que ça, pour moi, là, j'ai apprécié. Ce que j'ai trouvé sympathique, je vais être polie, là, c'est qu'on a un homme québécois qui va dire discrimination systémique. Et quand c'est arrivé, ça a été un scandale à l'Assemblée nationale. Alors que nous, on arrive, la majorité, c'est des Autochtones qui vont être à la tête de cette commission-là. Puis non, ça passait pas. C'était pas correct, on était trop durs dans nos choix de mots. T'sais, c'était comme... Mais ça, c'est mon petit sourire qui me fait penser que les gens sont plus à l'aise quand c'est quelqu'un de son monde qui lui dit un peu dans des mots plus polis.
Absolument.
Alors
malheureusement, encore une fois, tu sais, ouais. J'incarne cette affaire-là, puis je trouve ça plate, là, tu sais, que lorsque ça vient d'un homme blanc, c'est plus reçu, puis encore une fois, ça prouve que le système est défaillant, puis que l'œil du public, ouais. Et je m'inclus dans le public, là, je m'exclus pas du tout de l'équation, est à aiguiser, est à revoir. De là, l'importance de se faire apprendre la vérité pour justement pouvoir revoir comment nous, on voit les choses, comment on reçoit les choses, comment on voit les choses. Mais est-ce que ça a changé quelque chose?
Oui.
Est-ce que...
À mon avis, moi, oui. Moi, je suis convaincue que... Puis il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui pense comme moi, là, mais ma mère détestait tout ce qui était OG. Anthropologue, ethnologue, psychologue, tout ce qui était OG, puis rien, historien, puis etc.
Pourquoi?
Ah, je t'ai cueillie.
À cause
qu'ils viennent nous étudier, nous mesurer, nous peser, puis après ça, ils partent ou ils veulent nous parquer dans les musées, puis on est plein de poussière alors qu'on est très vivant comme peuple. Puis là, c'est ma mère dans son prime time de militante. Là.
Encore une fois, elle racontait pas la vérité nécessairement.
C'est ça.
C'est ça.
T'sais,
on peut comprendre.
Moi, j'ai été nourrie, là, jeune. Ah, j'aime pas les historiens, les hugs. Je savais même pas si je les aimais ou pas, là. Mais je suivais les traces de ma mère. Puis, à un moment donné, elle m'appelle, elle dit, Michel, faut que t'écoutes Serge Bouchard. Je dis, qui, lui? Elle dit, c'est un anthropologue. je répète. Fait que là, elle me le dit.
C'est un anthropologue.
Elle dit, il m'a charmé. Puis là, après ça, j'étais fâchée, moi, contre, pas Richard Desjardins, mais la réaction de la société face à l'erreur boréale que Richard Desjardins va signer, tu sais, va faire. Moi, je boudais.
C'était quoi la réaction?
De ma part? Ou des gens?
Oui.
Oh, mon Dieu! La forêt boréale! Oh, on est en train de tuer la forêt! Tu sais, les gens du Sud, là, venaient de comprendre là, que notre forêt boréale est en danger. Faisait des centaines d'années que les Innus de Machteuillache et les Anishinabés d'Amos ou ouais. de cette région-là vont dire « Arrêtez de couper nos arbres. » Nos arbres, à ouais. tout le monde. Là.
Ouais.
C'est un poumon là, que vous êtes en train d'amputer. Ah, les militants. Ah, les chialeux. Ah, les, ceux qui font des barricades. Et là, Richard va arriver, puis tout le monde est charmé, scandalisé, et il y a une mobilisation sociale qui se fait autour de tout ça.
Parce que ça vient d'un homme blanc encore.
Oui, j'étais fâchée, pas contre lui, mais ce type de réaction-là. Puis là, ma mère m'explique qu'après ça, son virage. Elle dit, mon Dieu, tous nos amis anthropologues, Rémi Savard, là, elle nomme toute sa gang d'amis qu'elle a connus, Québécois et Québécoises. Elle dit, bien, ils nous ont aidés à nous réapproprier ce qu'on nous a enlevé comme savoir à cause de leurs recherches. Nous, on est trop maganés, on n'a pas fait ces recherches-là. Maintenant, on peut les faire. Puis c'était son mea culpa, j'imagine, ou son pardon envers M. Bouchard. Puis je l'ai écouté, je dis, bien, c'est vrai. Et là, c'est là que j'ai vu que quand un Québécois ou une Québécoise va faire un exercice de sensibilisation à son monde, puis que ça a un impact comme on aimerait que ça l'aille si c'était nous, tant mieux.
Mais ça revient à tantôt quand tu me dis merci. On dirait qu'il y a une partie de moi qui fait... On dirait que je veux...
Oui.
C'est gentil que tu le dises, mais je te le rends parce que... puis tu vois, c'est drôle, j'en parlais avec Nick, mon technicien, juste avant que tu arrives... j'ai fait la couverture du L Québec et il y a des membres de la communauté LGBTQ+, qui trouvent ça plate qu'ils n'aient pas été mentionnés parce que moi, les gens, je vais dire célébrés, là, c'est un peu intense, là, mais la majorité des gens m'ont célébré. Ils trouvent ça beau, ils trouvent ça charmant que j'ai porté des attributs dits plus féminins, que j'ai du vernis, que je colore mes cheveux. Et je comprends, c'est sensiblement la même chose que tu me racontes, qu'il y a des membres de la communauté LGBTQ+, qui ont souffert, qui se sont fait martyriser pour les mêmes raisons qu'on me célèbre.
Oui.
Et ils trouvent ça injuste que j'ai pas juste salué ça, que j'ai souligné ça. Et je profite de l'occasion pour dire que je m'en excuse parce que après ça aussi, bon, c'est un médium qui est écrit, le magazine, qui fait en sorte que moi, ça a été une conversation comme ça que j'ai eue. Mm-hmm. Et après ça, évidemment, ben, c'est pas cette conversation-là qui se retrouve
nécessairement.
Écrite, ouais. Après ça, je trouve que l'article est vraiment génial, puis le L a été extraordinaire. Je prends la responsabilité qui me revient. Et évidemment qu'il y a des gens autour de moi qui font, ben voyons donc, c'est encore... Il n'y a jamais rien de correct, tu sais, mais je fais... Pour moi, c'était super important de m'arrêter puis d'écouter ce pointage de doigt-là qui m'était adressé, qui était, somme toute, très, 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 très doux, et d'être empathique à la situation puis d'être dans la compréhension et de faire, bien, si toute ma vie, juste la mienne, et j'ai inclus après ça la vie de ma mère, de mon père, de mes grands-parents, de mes ancêtres, on a souffert, et là, soudainement, un homme blanc arrive, fait la même chose que nous, on a fait, ou répète le message que nous, on a dit, et qu'il est célébré, je peux comprendre que certaines personnes sont fatiguées et trouvent pas ça juste, et c'est vrai. Après ça, je souhaite que Richard Desjardins vous ait aidé à faire avancer la cause.
Oui, pis, c'est un allié. C'est comme ça, moi, je le vois.
Mais c'est la raison pour laquelle je te dis merci à toi.
Ouais.
Et que je tiens à... J'apprécie que tu me dises merci. Mais pour moi, il ne m'est pas adressé à moi du tout, du tout, du tout. C'est toi qui a eu la générosité de venir t'asseoir avec moi pour le temps qu'on a discuté, qui est venu éduquer mon public avec que de la générosité, de la patience. C'est à moi de te remercier et à remercier toute ta communauté. Et je souhaite profondément que ça aide à quelque part. Mais pour moi, je sais même pas plugger le micro. Là. Fait que si c'était pas de Nick, c'est Nick qu'il faut remercier. Si c'était pas de Nick, cette conversation-là serait pas entendue. Wow. Donc pour moi, le merci te revient à toi, Michel.
Super.
T'es vraiment, vraiment... ça a été un moment super spécial pour moi. J'espère que tu t'en réjouis.
Ah oui!
Merci vraiment d'avoir accepté l'invitation. C'était super important pour moi.
Super.
Donc, j'en suis vraiment ému. J'ai des frissons depuis le début. Mais je te laisse le mot de la fin. Je ne sais pas si tu veux conclure d'une manière ou d'une autre.
En quelques secondes, merci. Merci. Puis s'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui dit « ben moi, je vais faire quelque chose où j'ai envie », faut juste pas avoir peur, faut être patient, ça marche pas toujours du premier coup, puis belle leçon de vie de ta part que oui, faut pas parler à la place de, mais avec, puis si on a la chance d'avoir de l'influence puis de pouvoir être des alliés, moi c'est on a besoin de ça parce que moi je suis fatiguée. Hein, tu l'as vu, j'ai pleuré tantôt, tu l'as entendu. Je suis fatiguée, puis c'est correct. Mais en même temps, plus on est nombreux, mieux c'est. Puis mon fils t'a écouté. Mes jumelles, ils sont fiers de toi, comme bien d'autres jeunes. Alors, cette magie-là, là, c'est pour eux autres aussi. Puis ça, c'est précieux. C'est précieux. Puis s'il n'y avait pas de COVID, là, je t'aurais donné un extra méga câlin. Là,
ça m'aurait fait...
Je t'ai reconnu pour ça à l'enquête, alors il va être virtuel.
Ça m'aurait fait grand plaisir, ouais. Michel. Michel Audette, t'es vraiment spécial. Merci profondément. Longue vie.
Merci.
Et prends bien soin de toi.
Oui.